Bonjour à tous. Merci Antoine pour cette très belle introduction sur le thème qui nous préoccupe cet après-midi. Mais j'ai une question difficile à vous poser. En qui avez-vous confiance pour être votre leader? En qui vous avez confiance pour être votre leader? Vous savez qu'on nous pose la question tous les 5 ans lors des élections présidentielles. En qui vous avez confiance pour être votre leader au niveau national? On vote? Alors aussi encore une question plus difficile. En qui avez-vous réellement confiance pour vous diriger personnellement? Pas simplement vous informer, pas simplement vous conseiller, mais vous diriger réellement. Il y a beaucoup de monde qui voudrait capter notre attention pour être notre leader. Cette question a donc une importance massive pour nous cet après-midi. Parce que dans le monde des leaders, il y a beaucoup, beaucoup de déceptions. Peut-être ma première interrogation et ma référence à des élections présidentielles a suscité chez vous un frisson ou un rappel peut-être de la désillusion de plus en plus collective, je crois, par rapport à nos dirigeants. Peut-être que la simple référence au mot leader, leadership, vous file des boutons, ou vous fait une piqûre de rappel douloureuse parce que vous avez malheureusement souffert d'une mauvaise autorité. Peut-être que vous avez perdu tout espoir de trouver un bon leader. Alors vous ne faites plus confiance qu'à vous-même. Oui, il y a beaucoup de déceptions dans le monde du leadership aujourd'hui. Mais j'ose espérer qu'il y a aussi de l'espoir. Et je vous repose cette question. À qui faites-vous confiance pour vous diriger? Et c'est avec toutes ces réflexions en tête que je vous invite à prendre votre Bible et à la garder ouverte en Jean chapitre 10. On va lire les versets 1 à 31. Je ne vais pas pouvoir faire tout Jean 10 cet après-midi. On va s'arrêter au verset 31. Page 696, si vous cherchez dans une Bible blanche le texte que l'on étudie cet après-midi. Jean 10, je lis juste sous le titre « Jésus le bon berger ». En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Oh, ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le nous franchement !» Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jusqu'ici notre lecture, et j'aimerais encore prier. Notre Dieu, tu es un Dieu qui parle. Et nous lisons ces versets, nous prions maintenant que par ton Saint-Esprit, tu nous éclaires pour que nous puissions en avoir la bonne compréhension. Parle-nous encore cet après-midi, nous aspirons à écouter ta voix. Amen. Alors j'ai bien peur qu'on tende le bâton pour se faire battre cet après-midi, puisque Jésus compare les leaders, les responsables et lui-même à des bergers, et donc à ceux qui le suivent à des moutons. Voilà, on a besoin de prendre du recul, de se plonger dans la pensée moyen-orientale où les moutons n'étaient pas perçus comme des personnes crédules et naïves qui suivent bêtement quelqu'un. Sauf rares exceptions dans cette salle, nous ne sommes plus vraiment familiers du monde agricole qui permettait de comprendre l'image que Jésus emploie ici. Au 1er siècle, les brebis sont dispersées partout. Elles se baladent un peu partout, on en trouve même dans la ville, peut-être au moment où Jésus est en train de dire ces mots, il y a un troupeau qui passe devant lui. À l'époque, il n'y a pas non plus de barrière. Là où il y a un troupeau de brebis, il y a donc forcément un berger pour les protéger. Et parce que les terres étaient moins fertiles qu'ici en Isère, les animaux bougeaient constamment. Et donc le lien entre le berger et le brebis était très fort. Il les appelle par leur nom, il les dirige. Il est bien leur leader, leur responsable. Et donc Jésus utilise cette activité bien connue de ses contemporains pour lancer un message. Quel est ce message? Le message, c'est le suivant. Dans un monde de mauvais bergers, Jésus est le bon berger et ses brebis écoutent sa voix. Voilà en substance le message de ce chapitre 10. Et j'aimerais qu'on étudie bout à bout cette phrase et puis qu'on en voit les implications pour nous cet après-midi. Dans un monde de mauvais bergers. Donc Jésus utilise l'image de berger pour parler en fait des responsables religieux et politiques de son époque. Et au tout début du christianisme, dans les Bibles, il n'y avait pas de chapitres et de versets. Ils ont été ajoutés un peu plus tard. Au XIIe siècle après Jésus-Christ, puis au XVIe siècle après Jésus-Christ. Et donc on peut parfois rater le lien entre les différentes parties de l'évangile qui raconte sa vie. La semaine dernière, Nicolas nous avait parlé de Jésus qui a guéri un aveugle-né, preuve qu'il est bien la lumière du monde, le salut pour les hommes. Et on a vu aussi trois types de réponses à cette lumière. Il y a ceux qui accueillent la lumière, il y a ceux qui n'accueillent pas la lumière et il y a ceux qui ont peur de se positionner. Et parmi ces personnes qui n'accueillent pas la lumière, après avoir insulté l'homme qui voit à nouveau, qui a été guéri, qui a accueilli la lumière, excédé par ses réflexions sur Jésus, les bergers qui refusent la lumière s'écrient au chapitre 9, verset 34. Vous pouvez juste tourner la page dans la Bible pour regarder ce verset. « Tu es né tout entier dans le péché. » Et tu nous enseignes ? Et que font-ils ? Ils le chassèrent. Bon, ça, c'est dur. En faisant culpabiliser cet homme, en associant sa souffrance à son péché, et en affirmant qu'il n'a rien à leur apprendre, les bergers usent et abusent de leur autorité pour faire du mal aux personnes dont ils ont la responsabilité. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'adresse à eux, verset 39, donc vraiment à la toute fin de votre page. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens, donc quelques personnes de l'élite religieuse qui étaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites « Nous voyons, votre péché reste. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Vous voyez le lien ? Le message de Jésus, du berger, est en lien direct avec ce qui vient de se passer avec l'homme guéri. Il est insulté, il est maltraité, il est chassé abusivement par de faux bergers. Est-ce que vous et moi, on a souffert sous un mauvais leadership ? Est-ce qu'on est désillusionné par rapport à l'autorité ? Eh bien, Jésus se positionne en notre faveur. Il dénonce ces mauvaises autorités. Et en même temps, il confirme nos préjugés concernant l'autorité. Oui, il y a des bergers qui abusent. Ils n'entrent pas dans l'enclos des brebis par la porte. Qui sont-ils ? Des voleurs et des brigands. Alors, il s'agit d'une parabole. Et on aurait probablement tort d'essayer de comprendre tous les détails de cette parabole pour trouver une signification précise. On voit par exemple que Jésus, à un moment, se décrit comme la porte, puis il se décrit comme le berger. Et là, les commentateurs se grattent la tête et disent « Attends une minute, Jésus, la porte ou le berger ?» Et de même, ça n'a aucun sens pour un berger de donner sa vie pour ses brebis, parce que s'il donne sa vie pour ses brebis, qui va prendre soin du troupeau. Donc, on aurait tort de chercher du détail dans chacun des aspects de la parabole. Il faut se laisser saisir par l'impression claire. L'impression claire, c'est le portrait robot qui est dressé du bon berger et des mauvais bergers. Et on commence avec les mauvais bergers, de faux bergers, verset 10. Regardez encore. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Verset 12, le simple salarié, lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Pourquoi ? Verset 13, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Alors, je suis tout sûr qu'on peut tous faire des parallèles avec des situations concrètes qu'on a vécues au travail ou qu'on voit dans le monde de la politique. Quand les circonstances deviennent mauvaises, c'est là où se révèlent les motivations. Que font les mauvais bergers ? D'après Jésus, ils abusent, ils négligent, ils chassent, ils bossent pour leur poire, pour de l'argent. Ils sont égoïstes. Ben ça, c'est la confirmation de tous nos préjugés. Il y a un auteur qui commente. Le monde persiste à chercher des sauveurs politiques. Des Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, et ne se rend compte que trop tard que ces tyrans lui ont confisqué ses biens et qu'ils ont sauvagement détruit tout ce qui a de la valeur. Bien souvent, on le sait, l'autorité est mal utilisée. Du coup, en qui voulez-vous avoir confiance pour diriger votre vie ? Alors je parle peut-être à des gens qui sont bien désillusionnés par rapport à la politique, par rapport à l'idée d'avoir un leader national, une idole, un messie, ça, on n'y croit peut-être plus. Mais combien d'entre nous sont encore confiants dans des idéologies utopistes dont le héros ultime reste l'homme, les éco-villages, les ZAD, les gilets jaunes ? Hélas, sous le vernis d'une promesse de vie réussie, se cachent encore ici de mauvais bergers. Chassez le naturel et il revient toujours au galop. Derrière ces belles visions de communauté qui donnent vraiment envie et qui sont belles, nombreux sont ceux et celles qui en reviennent et qui même dénoncent ces mouvements où il y a du vol de temps, du vol de l'énergie, des abus émotionnels et psychologiques, que ce soit l'idole, que ce soit l'idéologie, que ce soit le sauveur politique, que ce soit la doctrine ou le mouvement, c'est très beau toujours sur le papier, un peu moins dans la réalité. Parce qu'on n'arrive pas à vivre à la hauteur de nos idéaux. Entre l'idole et l'idéologie, on oscille parfois. Et entre les deux, notre cœur balance. Mais qu'est-ce que l'histoire ? Sinon le rappel et la répétition du mouvement de balancier qui va éroder toujours plus notre confiance dans le leadership. Oui, il y a de mauvais bergers. Mais Jésus a un message d'espoir pour nous cet après-midi. Dans un monde de mauvais bergers, il se présente comme le bon berger. Alors, Antoine nous l'a dit, dans la Bible, le berger par excellence, c'est qui ? C'est Dieu. Psaume 23, première partie de la Bible dans l'Ancien Testament. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et en 700 ans avant la venue de Jésus, avant qu'il déclare ce discours sur le bon berger, il y avait un prophète, un porte-parole de Dieu du nom de Ézéchiel, qui avait fait le même constat que Jésus et nous concernant l'autorité. Et voici le résumé qu'il avait annoncé concernant l'avenir pour ceux et celles qui ont peur que finalement on fasse que de la répétition de mauvais bergers. Premièrement, moi, Dieu, je vais reprendre mes brebis et je vais en prendre soin particulièrement. Ça, c'est Ézéchiel 34. Deuxièmement, comment le verrez-vous ? Je vais mettre à la tête mon homme, mon bon berger. Dans la Bible, Dieu est à la fois le bon berger, mais il effectue son travail au travers d'un homme qu'il place à la tête de son troupeau. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce bon berger ? C'est quoi son profil LinkedIn ? Verset 9, il est bienveillant. C'est moi qui suis la porte. Alors, il n'y avait pas de porte à l'époque au niveau des enclos, et quand le berger avait rassemblé ses brebis, il dormait à la porte de l'enclos. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ça, c'est super. Bien entendu, la vie abondante dans la Bible ne veut pas dire une vie qui est sans problème. Vous savez, don't worry, be happy. Mais néanmoins, c'est la meilleure vie dont on rêve sur cette terre. Et c'est surtout la vie qui dure, puisque c'est la vie qui se prolonge jusque dans l'éternité. Le bon berger est bienveillant, verset 9. Verset 11, juste arrêtons-nous sur ce mot, il est bon. Il est le bon berger. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur ? Ce qui jaillit du cœur de ce bon berger, c'est la générosité, la noblesse, la dignité. Il est bon. Verset 11 aussi, il est protecteur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il se bat contre les loups, pour elles, contrairement aux salariés qui, quand ils n'y voient plus son gain, ils ne se soucient plus de ses brebis. Il est protecteur, il est sacrificiel, verset 18. Personne ne m'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. Et enfin, il est rassembleur, verset 16. Regardez comme il est fédérateur. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Allusion encore une fois à Ézéchiel 34. Vous et moi avons peur, à juste titre, je crains, du pouvoir et de l'abus de pouvoir. Malheureusement, l'actualité regorge de confirmations. Un simple rappel de ce qui se passe en Russie actuellement permet de voir que le pouvoir peut être concentré et utilisé pour faire vraiment le mal. Et ça, c'est scandaleux. Mais il y a aussi de l'autre côté le courage d'un président ukrainien qui combat aux côtés des membres de son peuple. Les tragédies révèlent toujours la bassesse ou la noblesse des cœurs. Et je suis sûr que mon illustration a des limites parce qu'on n'a pas toute l'histoire, mais dans le cas de Zelensky, tout le monde présumait qu'il allait prendre ses jambes à son cou au premier jour de l'invasion russe. Parce que c'était un acteur, il avait probablement un avenir dans le monde du cinéma ailleurs, aux États-Unis. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a pris un gilet pare-balles et depuis le premier jour de l'invasion russe, il est resté. En sachant qu'il risquait sa vie, une arrestation et probablement sa mort après la torture. Il n'a pas peur de se rendre sur le champ de bataille auprès de son peuple qu'il essaye de rassembler. Il est protecteur, il donne de lui-même pour avertir à droite et à gauche toute l'Europe et les États-Unis pour aider le peuple ukrainien. Alors je ne sais pas à quel point Zelensky ressemble à ce qu'on en perçoit dans l'actualité, mais je connais quelqu'un dont la vie ressemble parfaitement à celle du bon berger. Et c'est bien sûr la vie de celui qui est en train de prononcer ce message, Jésus de Nazareth. Il est un meilleur Zelensky, bienveillant, bon, de son cœur jaillit la noblesse, la dignité, la générosité. Il est protecteur, Jésus ne laisse jamais tomber les siens. Il est rassembleur et sacrificiel. Qu'est-ce que la fin de cet évangile, sinon la preuve qu'il est le berger ultime, qui donne sa vie en mourant sur la croix pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie éternelle. Voyez, il y a de l'espoir concernant les leaders. Ce Jésus, il est le berger promis par Ézéchiel, Dieu en action, son homme qui se met à la tête de son troupeau. Pourquoi on ne voudrait pas être dirigé par lui? Et peut-être c'est la première fois que vous réfléchissez à cette idée, à cette question, qui me dirige personnellement? Eh bien, en France, on n'a que deux solutions. Il y a les autorités officielles et il y a les autorités officieuses. Et peut-être parce que vous pensez que vous êtes libre, eh bien, vous pensez peut-être que vous n'êtes dirigé par personne. Malheureusement, on est toujours dirigé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, « Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. » Qu'est-ce qu'il parle, de quoi il parlait? Il parlait encore d'un de ses excès de rage et de colère contre un de ses semblables, révélant ainsi qu'il y avait quelque chose sur lui qui le dominait, qui le dirigeait. Aucun de nous ne peut totalement s'affranchir de quelqu'un ou de quelque chose qui nous dirige. Et donc, si c'est la première fois que vous réfléchissez, j'aimerais vous offrir une question de diagnostic qui est là dans ce texte pour identifier qui ou quoi vous dirige. La question, c'est qui êtes-vous en train d'écouter? Qui écoutons-nous? Pourquoi? Parce qu'au fond du fond, la direction, c'est une question d'audition. Ce que nous écoutons nous influence dans la prise de décision. Regardez, comme faisait le berger pour diriger ses brebis, comment faisait-il? Il lui faisait entendre sa voix, verset 3. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom. Roger. Catherine, Sean, il marche devant les brebis. Vous n'avez pas vu celle-là. Sean le mouton. Il marche devant les brebis et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 26, maintenant tout à la fin de notre texte, en parlant de ceux qui ne sont pas ses brebis. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'en faites pas partie de mes brebis. Verset 27, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Une vraie brebis est caractérisée par l'écoute du bon berger, de Jésus, dans sa parole, Bible ouverte ou smartphone allumé. En fait, une des personnes qui a le plus d'influence dans ta vie, ben c'est toi. On écoute constamment notre voix. Et cette voix, elle est elle-même influencée par celui ou celle qu'on écoute. On ne peut pas en faire abstraction. Il y a toujours quelqu'un qui nous dirige. On est tous des petits prédicateurs pour notre cœur. La question, c'est qui on écoute vraiment. Alors, quelques exemples de voix, de messages qu'on peut entendre et qui vont avoir une influence dans notre vie. Un message qu'on entend dans la culture, qui est finalement que la somme des voix des êtres humains, il faut que tu travailles dur, que tu brûles la chandelle par les deux bouts au travail pour avoir de l'argent, une bonne vie et la sécurité. Ça, c'est une voix qu'on peut écouter. À quoi mène cette voix ? Eh bien, j'ai peur que ça ne mène pas à la vie abondante, mais finalement à la comparaison, à l'insatisfaction et souvent à l'épuisement. Alors, je dis simplement, en faisant peut-être un peu de réduction, mais je vous donne un deuxième exemple. Il faut rechercher le confort à tout prix. Je veux qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin d'une coupure, de me reposer devant un écran. Alors, sur quel chemin conduit cette voie ? Ben, c'est bien documenté aujourd'hui. Elle mène à l'isolement et à l'encroûtement. Toutes les belles qualités que Dieu t'a données pour servir, rendre service à ta communauté, sont gâchées parce que tu es désactivé. Un autre message, un dernier message. Il faut aimer les gens. Ce qui est important, c'est l'amour. Et donc, je ne préfère pas leur dire la vérité. Et dans ce cas, vers quel chemin ça mène, cette voie ? La question, c'est est-ce que finalement, on va vraiment aimer les gens en refusant de leur dire la vérité ? Est-ce qu'on aime les gens ou est-ce qu'on aime être aimé ? Par les gens. Ça, c'est les voix de la culture qu'on entend. J'espère que vous, je ne suis pas en train de créer un homme de paille, vous les entendez aussi, cette voix. Et en fait, ces voix, elles mènent à des illusions aussi, et à, du coup, on est là à en dire bah, qui on va écouter, si on ne peut plus écouter personne. Peut-être qu'on a envie juste de s'écouter soi-même. Peut-être que c'est votre tentation de dire je vais n'écouter que moi. Ben, est-ce que je peux vous inviter à voir aussi combien votre voix intérieure n'est pas un bon berger pour vous ? En vous posant juste une question. Qui t'a menti sur toi plus que toi-même ? Je suis nul. Je vaux rien. Je suis feignant. Mes parents avaient raison. Je suis juste gênant. Ça, c'est le genre de message qu'on s'envoie sur notre cœur. Et on ne peut pas en faire l'impasse. Ça, c'est là, parfois notre voix intérieure. On devra toujours écouter quelqu'un. Et donc, est-ce que la voix qu'on écoute, elle est bonne ? Vient-elle d'un bon berger ? Quelle que soit notre réponse à cette question, hein, ne laissons pas la culture, c'est-à-dire la somme de ces voix, ou notre propre voix devenir notre berger. Parce qu'aucune de ces voix ne veut réellement notre bien. Aucune de ces voix ne cherche à nous protéger, à nous rassembler. Et surtout, surtout, aucune de ces voix n'ira mourir pour vous. Et cette histoire de voix personnelle, c'est mon expérience régulière, même en tant que croyant. Ma voix intérieure, personnellement, elle me fatigue. Elle me décourage. Elle m'enlève mon assurance et ma sécurité intérieure. Et même cette semaine encore, j'étais là face à la montagne de boulot qui m'attendait et je m'entendais dire « Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver.
encore une semaine où tu vas trimer et ça va être dur, tu vas galérer.
Et à ce moment-là, j'avais juste envie de débrancher cette voix pour me brancher sur un autre canal. Est-ce que ce soit possible que ce soit aussi votre cas? Et si c'est le cas, est-ce que je peux vous inviter à brancher votre canal d'écoute sur celle du bon berger? Parce que la voix du bon berger, elle dit au verset 27, lisez encore avec moi ces versets, s'il vous plaît. Verset 27, écoutez bien. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Vous sentez la sécurité? Vous sentez l'assurance? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est la voix du bon berger. Mais regardez ce que font les gens à la suite de cette phrase. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mais Jésus ne mourra pas sous ces pierres. Vous savez pourquoi? Eh bien, pour nous prouver qu'il peut bien nous garder en sécurité. Au verset 17, il a dit « Personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même. » Personne ne peut ôter la vie de Jésus et il la reprend quand il le désire. Et il a donné cette preuve en mourant de lui-même sur la croix et en revenant à la vie par sa résurrection. Jésus a donné sa vie de son plein chef pour vous et pour moi. Personne ne m'ôte la vie. Ça, c'est la preuve que personne ne pourra non plus vous arracher de sa main. Le berger nous garde. Nous avons un statut inébranlable. Nous sommes précieusement gardés dans sa main, dans la main de son Père. Alors j'en termine. Dans un monde de mauvais bergers, Jésus est-il notre berger? Est-ce que vous seriez ouvert, peut-être pour la première fois, ce soir à entendre sa voix? Peut-être que pour la première fois, ce soir, vous entendez sa voix vous appeler par votre nom? Alors, s'il vous plaît, répondez simplement. Si vous passez par lui, vous entrerez et vous sortirez dans de verts pâturages où vous aurez de quoi vous nourrir, où vous aurez la vie abondante, une vie abondante qui dure jusque dans l'éternité. Oui, dans un monde qui se cherche désespérément un bon leader, Jésus est le seul qui est à la hauteur de notre idéal. Jésus est le bon berger, alors écoutons sa voix. Écoutons-la le plus régulièrement possible. J'espère que c'est quelque chose que nous avons pris l'habitude en Église de faire régulièrement, pas simplement le dimanche, mais en semaine, à nous mettre à l'écoute du bon berger. Mais j'aimerais aussi rassurer ceux et celles qui lisent la Bible avec des personnes qui ne connaissent pas encore le bon berger. En fait, le berger appelle lui-même ses brebis. On peut lire la Bible avec quelqu'un sans être cherché à particulièrement être impressionnant, avoir un argument hyper intelligent, mais juste en lisant la Bible, en fait, Jésus se livre, appelle, et donc des personnes vont entendre sa voix et se mettre à le suivre. Jésus appelle ses brebis par son nom. Elles le suivent parce qu'elles ont confiance en lui pour les diriger jusque dans la vie éternelle. Nous pouvons persévérer et écouter toujours plus Jésus.